Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis maintenant en compagnie de Jean Rousselot. Bonjour.
Bonjour Didier.
Nous allons aujourd'hui parler de votre deuxième roman, Cavalier du Ciel, aux éditions Julliard, un roman qui nous plonge dans une histoire vraie hors du commun, celle d'un homme, né le 14 octobre 1876 à Paris, Carlo de Rose, qui, comme son père et son grand-père, est officier de cavalerie et qui, en mars 1906, est envoyé à Haussonville, en Lorraine, pour forcer la porte d'une église. Il refuse alors d'obéir, sacrifiant ainsi sa carrière militaire. Il est ensuite emprisonné à la maison d'arrêt de Nancy. Il y écrit des lettres, notamment à son père, des lettres précieusement conservées par votre famille qui ont en partie inspiré l'écriture de ce roman. L'histoire de cet homme, Carlo de Rose, ne s'arrête pas là. Après ce drame originel, il va se réinventer et jouer un rôle clé dans l'histoire en créant l'aviation de chasse au début de la Première Guerre mondiale. Une destinée fascinante, celle de Carlo de Rose, donc, qui est Jean Rousselot, votre arrière-grand-père. Ma première question est la suivante. Comment fait-on pour porter une telle histoire? Et surtout, quel héritage, que garde-t-on des générations plus tard dans la famille de cet acte, de ce geste, de cette désobéissance fondamentale?
D'abord, j'aime beaucoup la façon dont vous avez présenté le livre qui me touche. Moi, enfant, j'avais entendu parler de Carlo de Rose, qu'on appelait le commandant de Rose, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et c'était un peu le héros de la famille, à tel point que même mon grand-père, son fils François, je pense, aurait rêvé de faire le même métier s'il s'était pas crevé un œil et empêchant cette carrière-là. Et donc, on grandissait, et ces fameuses lettres dont vous avez parlé, ces lettres à son père au moment où il est enfermé, arrêté, me touchaient beaucoup. Je les avais lus, mon grand-père les avait édités, et comme il y a ce destin de l'aviation de chasse, avec le temps a grandi en moi l'envie d'en faire une histoire, d'en faire un roman, et je crois que c'est la réunion de ces deux événements, c'est-à-dire la désobéissance, l'arrestation, l'emprisonnement dans la jeunesse, et tout ce qui se passe d'incroyable après, avec les débuts de l'aviation et particulièrement la naissance de l'aviation de chasse, que je trouvais extrêmement romanesque. Et c'est un peu peu à peu ça dont, enfant, je suis devenu adulte et que j'ai eu envie de raconter.
Quel est votre rapport à la désobéissance, Jean? Sachant que l'écriture d'un roman est finalement un exercice très sage.
Oui, c'est vrai. Je crois que je suis assez fasciné par les gens bien élevés qui désobéissent. Parce que les gens bien élevés qui désobéissent, on se demande toujours pourquoi. Qu'est-ce qu'ils vont aller briser ce cercle vertueux d'obéissance? Et c'était le sujet déjà dans mon premier roman, Georges et Carmen, qui racontait la naissance de l'opéra Carmen. Et je voyais Bizet comme quelqu'un de très très obéissant, qui à un moment décide de faire la Carmen qu'il a en tête et de désobéir à l'injonction qui lui était faite de faire une œuvre sage, qui se termine bien. Et donc je crois que je suis assez fasciné par ça. Je trouve que ça a beaucoup beaucoup d'audace, c'est toujours difficile à faire, ça demande de prendre des risques. Et j'aime bien raconter quand parfois les risques pris sont récompensés.
Est-ce qu'on pourrait dire que vous êtes fasciné aussi par les gens, par des parcours particuliers, puisque au-delà de ce roman, donc effectivement vous avez publié en 2022 aux éditions Phébus, Georges et Carmen, ça c'est votre deuxième roman, Cavalier du Ciel, aux éditions Julliard. Vous êtes également cinéaste, documentariste, réalisateur, et vous faites des documentaires sur des gens, sur des parcours.
Oui.
Ça vous fascine les destins individuels?
Oui. D'abord, quand un destin est grand et qu'on voit les risques pris, on s'était rencontré la première fois, Didier, autour du documentaire que j'avais fait sur la chanteuse Amaya Rodriguez, et je trouvais que son destin était extrêmement fascinant et donnant énormément de respect pour cette personne, énormément d'admiration. Je crois que de la même façon, j'aime bien essayer à la fois de les raconter. Quand ces destins, je les connais et qui me semblent finalement assez peu connus, j'ai envie de les raconter à ma façon, c'est-à-dire soit par un documentaire, soit par un roman. Je ne suis pas historien, donc le strict point de vue historique, je m'en soucie. Pour ce livre-là, tout ce qui est dans le livre a été vérifié au début du roman et à la fin pour m'assurer de la vérité historique. Mais quand je peux raconter, quand j'ai l'impression qu'il y a là quelque chose qui peut nous inspirer dans nos vies d'aujourd'hui, même plus d'un siècle plus tard, et que je me dis, je crois que je suis la bonne personne pour le raconter, je crois que j'ai des clés qui me font, soit qui font résonner avec ma vie ou qui font résonner avec des envies profondes que j'ai eues qui m'ont habité longtemps, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, je peux raconter cette histoire-là.
Quelle corrélation voyez-vous entre l'acte de désobéissance et l'accomplissement volant qui a suivi?
Alors d'abord, il y a quelque chose de très étonnant, parce que c'est un officier de cavalerie, donc c'est un soldat, et son premier acte de désobéissance, c'est de refuser un acte de violence. Et ça, je trouve ça déjà très intéressant. Mmh. Il refuse d'attaquer. Alors, il refuse d'attaquer une porte, en l'occurrence une église, un lieu qui a une très forte importance pour lui, qui était très croyant. Et puis, je pense que lui se dit, ça n'est pas à l'armée de faire ce genre de choses. Mais comme lui fait remarquer d'autres gens, c'est si tous les soldats décident ce qui est pour nous ou pas, on va à l'anarchie. Mais lui suit sa conscience. Pour moi, le lien entre ce moment-là et où il crée... Il milite pour l'aviation de chasse et il la crée, et il crée la première escadrille de chasse de l'histoire en mars 1915. Mmh. J'y vois clairement un destin. C'est pour ça que, parce que je me dis que d'abord, s'il a désobéi une première fois, eh bien, quand on lui dit, quand il envoie des rapports pour dire c'est important d'armer les avions et qu'on ne l'écoute pas dans les états-majors, ben finalement, il n'a plus rien à risquer puisqu'il a pris le plus grand risque au départ en désobéissant. Je crois que ça, c'est très inspirant. Et après, il y a quelque chose aussi, peut-être plus visuel, qui est le cavalier qui devient un aviateur. C'est-à-dire, tous les gens qui sont cavaliers, qui sont montés dans des avions, verront les points communs, on monte d'un certain côté, parce qu'avant il y avait le sabre, dans un avion, comme sur un... Il y a des choses qui sont intéressantes, et puis... C'est ce que je raconte dans le livre, c'est que finalement, il rencontre des gens qui lui disent « Un avion, à l'époque, ça se pilote aux fesses. » Il y a des vrais points communs entre l'animal, le cheval et l'avion, qui est cette chose un peu fragile de bois et de toile. Je crois que ça, c'est... Donc, effectivement, le fait de s'envoler, c'est-à-dire le fait de refuser quelque chose qui va frapper pour tout d'un coup devenir un aviateur, un des premiers... puisqu'il est le premier brevet militaire numéro un de l'aviation, il y a quelque chose où il s'élève, évidemment. D'ailleurs, c'est dans mon titre, Cavalier du ciel. Il y a le ciel dans le sens le ciel, pour lui, Dieu. Mais il y a aussi le ciel qu'il va découvrir. Il est un des premiers hommes à survoler les Pyrénées. Mm-hmm. Il s'élève.
Et il questionne d'ailleurs cette corrélation, je vous cite, « Peut-on monter bien haut, caresser les nuages en les dépassant si l'on commence par fermer les yeux sur quelque chose qui nous choque, si pour exécuter l'ordre on va contre ses principes, ses convictions les plus profondes, quel que soit notre rapport au monde, à la foi, au travail, vient un jour où faire le pas de plus est impossible. Pourtant, si je n'avais pas désobéi, si je n'avais pas été traduit en justice, aurais-je ensuite connu ce destin auquel je n'étais nullement préparé? Répéter d'une autre façon la carrière de mon père et de mon grand-père était mon seul but, mais voilà que j'allais aborder un territoire nouveau, une dimension fascinante et inédite du métier de soldat. »
Ouais. Je trouve que cette réflexion, pour moi, c'est ça qui me fascine. Je lui prête cette réflexion. J'imagine qu'il l'a eue, puisque donc, pour préciser, dans ce livre, je raconte à la première personne. Mmh. Je me mets à la place de mon arrière-grand-père et je voulais raconter ce destin. Ce qui voulait dire effectivement des questions de forme, et je m'étais dit que si je le racontais, je crois qu'on pouvait davantage interpeller tous les gens qui, dans des situations très différentes, peut-être dans le travail, à qui on dit fais ça, et puis un jour on nous dit un truc du genre là c'est trop. Et je pense que là il peut y avoir une résonance, et c'est pour ça que je pensais qu'il pouvait s'adresser à nous et le faire à la première personne. Et donc je crois profondément que les deux sont liés, c'est-à-dire qu'il aurait eu peut-être le destin, même si les cavaliers au moment de la Première Guerre mondiale, ça a été extrêmement cruel. Je pense que et je trouvais aussi qu'il y avait quelque chose, je sais pas si ça répond à votre question, Didier, mais qu'il y avait quelque chose de complexe et d'intéressant dans cette personne qu'on pourrait trouver assez traditionnelle, dans le sens où elle a une foi très attachée à sa foi et à ses principes, et en même temps, totalement, de ce que je savais, dès l'école, dès Saint-Cyr, il est extrêmement tourné vers l'avenir, vers toutes les technologies qui sont en œuvre à ce moment-là. Et je pense que c'est ça qui fait ce parcours-là, et qui fait effectivement me demander, et demander au lecteur, à la lectrice, est-ce qu'on peut aller très haut si on a commencé par trahir quelque chose de profond dans lequel on croit? Et ça, je pense que c'est à chaque lecteur et chaque lectrice de se faire son avis, ou chaque citoyen, on va dire. Moi, je pense qu'il est monté tellement haut parce que il a désobéi.
Et nous allons continuer cet entretien, mais pour le moment marqué, Jean, une courte pause.
Radio Alpha.
Merci beaucoup d'être branché à l'Alpha 10-13 de Radio Alpha. Je suis toujours en compagnie de Jean Rousselot. Il vient nous parler de son nouveau roman Cavalier du Ciel, publié aux éditions Julliard. Racontez-nous, Jean, l'exercice de l'écriture romanesque. Vous qui avez déjà publié donc en 2022 aux éditions Phébus, Georges et Carmen, mais qui est essentiellement, si je ne m'abuse, cinéaste, documentariste. Racontez-nous donc l'écriture, les dispositions pour écrire, vos rituels, le temps passé.
Avec plaisir. Alors, pour Cavalier du Ciel, j'avais donc ces lettres dont vous parlez. C'est-à-dire que la base, c'était quand il est emprisonné, ce jeune lieutenant de cavalerie, il écrit à son père, et je trouvais que les lettres étaient d'une intelligence, je trouvais pas que c'était juste les lettres, on va dire, de quelqu'un qui était très croyant et qui disait c'est pas possible. C'était beaucoup plus que ça. C'était une vraie réflexion, tout en acceptant son destin, de dire je vais sans doute être arrêté, je vais me retrouver dans la vie civile. Donc, je me suis dit les lettres vont être presque le nœud central de mon livre. Et d'une certaine façon, je voudrais que les lettres viennent assez vite dans le livre, mais qu'on en ait un peu jusqu'à la fin de son histoire. Ça, c'était l'envie profonde de la structure. Et puis, comme on a dit aussi, je voulais le raconter à la première personne. Je voulais créer une relation intime. Je voulais que... j'aimerais que tous les gens qui lisent ce livre se disent « Ah, mais on est dans la tête d'un jeune officier de cavalerie en 1906, 1911, 1914. On est dans sa tête quand il vole, quand il fait ce premier... c'est sa première fois qu'il passe son brevet, quand il va combattre au-dessus de Verdun. Je voulais vraiment qu'on vive ça très fort. Donc ça, c'était aussi une des choses qui comptait dans l'écriture, qui est effectivement, tout ce travail a suivi en fait des années de prise de notes. C'est-à-dire qu'il y avait des livres qui étaient sortis sur lui, mais des livres d'histoire, des livres assez épais, vraiment pour un public de spécialistes. Et moi, je voulais toucher le grand public. Donc, pendant des années, j'ai amassé, et en me disant, mais qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Et c'est vraiment quand je me suis dit, je vais raconter à la première personne, que d'une certaine façon, les choses sont éclairées, que j'ai commencé à écrire des chapitres avec une règle où effectivement je me disais bah j'en fais un par jour. C'est des chapitres très courts, ça je voudrais peut-être en parler si ça vous va, Didier, mais
bien sûr.
Le livre est très court. Pourquoi? D'abord, je voulais que tout le monde puisse s'en emparer, c'est-à-dire qu'on puisse l'offrir à, parce que ce soit des jeunes, pas des enfants qui aiment lire, des personnes âgées qui s'intéressent à la guerre. Je voulais que tout le monde puisse le lire et que ça se lise facilement. Mais il y avait aussi parce que pour moi c'est une page d'histoire de France méconnue. Et puis aussi une page de l'aventure, c'est vraiment un récit d'aventure. Mais aussi, pourquoi court? Parce que je me suis dit, c'est un officier de cavalerie qui raconte sa vie. Ça peut pas prendre 300 pages, 400 pages. Je voulais...
Ça doit être efficace.
Efficace. Je me suis dit, on doit être en accord entre cet homme-là et le fond de l'histoire. Donc voilà, c'était parfois les chapitres font 2 pages, 3 pages. Je voulais que ça file, je voulais qu'on apprenne à chaque fois des choses, qu'on soit dans sa tête, même s'il y a une grande dimension émotionnelle, émotionnelle dans le livre, pour moi. D'ailleurs, si les gens le disent, je vous conseille d'aller jusqu'à la dernière page, où après les remerciements, il y a la dernière lettre de ma grand-mère qui, moi, me tire des larmes à chaque fois, de mon arrière-grand-mère, sa femme, Madeleine, la femme de Carlo. Mais je voulais que tout soit intense, c'est-à-dire que s'il nous décrit un lever de soleil quand il part à cheval dans les aiguilles de pin, rejoindre son terrain d'aviation, pour s'envoler avant le jour, ben c'est court, ça fait quelques lignes. Je le voyais pas faire des grandes descriptions romanesques. Oui, c'est romanesque et c'est poétique, je pense, mais je voulais que ce soit très court. Et donc, au fur et à mesure, le travail était de raccourcir, de toujours garder ce point de vue-là, de donner une part aux avions, mais aussi que ce soit un livre qui puisse être lu par des gens qui n'en ont rien à faire des avions ni de la Première Guerre mondiale, à cause de cette histoire-là, de cette relation père-fils, de cette relation mari-femme, et que mais qu'on sente aussi des choses entre les lignes, c'est-à-dire que d'un chapitre à l'autre, on dit « Ah tiens, il s'est passé ça, ah, tout d'un coup il a 4 enfants, ah, et que ça avance, parce que pour moi, cet homme-là qui va s'envoler pour la première fois, c'est exactement cette sensation que je voulais qu'on retire. »
Et donc, dans ce roman Cavalier du Ciel, vous rentrez, vous mettez dans la peau de votre arrière-grand-père, Carlo Drozes. Vous racontez notamment son expérience de la prison. Comment avez-vous procédé? Vous êtes-vous projeté de façon fictionnelle dans l'état d'esprit de votre arrière-grand-père, ou aviez-vous des traces concrètes de son expérience de l'emprisonnement?
Alors, j'avais les lettres. Donc, il en parle dans ses lettres. Donc, ça, c'était pour moi, je revenais toujours aux lettres. Après, tous les lieux, comme par exemple, cette prison-là, elle a été détruite. Mais il y a 2 ans, j'ai fait un voyage où j'ai emmené mon épouse et mes enfants sur les traces de tous ces lieux-là.
On en parlera.
L'église d'Aussonville, dont il a refusé de forcer l'entrée. Lunéville, où il était en caserne. Joncherie-sur-Vel, où il y avait son bureau, le terrain de Ronède, où s'est envolée la première escadrille de chasse, j'ai été sur tous ces lieux-là. Donc, dès que les lieux existaient, j'étais dedans, autant que faire se peut, même s'ils ont, ils ont d'autres fonctions maintenant. Pour la prison, bah, c'est un mélange. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait de la lettre, où il racontait, et puis l'éditeur, Adrien, m'a dit, bah, moi, j'aimerais bien en savoir un peu plus. Donc, j'ai été creuser, à la fois, toujours pareil, une partie documentaire, qu'est-ce que c'était la vie en prison à ce moment-là ? Et en même temps, qu'est-ce que moi, j'imagine de tout ce que je sais, de tout ce que je suis ? Parce qu'il y a un côté où à un moment, c'est Commandant de Rose, et puis c'est moi, ce personnage-là, qui raconte. Donc, trouver une approche simple, profonde, de chaque lieu.
Et ce roman vous aura fait voyager à la fois dans le temps, car vous remontez jusqu'à la fin du 19e, au début du 20e siècle, et vous aura fait voyager spatialement également. Vous êtes allé à Villemontoir, Joncherie-sur-Vel, Ronet, Verdun, Lunéville et Haussonville pour vous imprégner, donc, vous le disiez, des lieux témoins de cette histoire.
Oui, et d'ailleurs c'était touchant parce que la semaine dernière j'étais à une rencontre dédicace dans la librairie de Lunéville. Et donc Lunéville c'est juste à côté du château, et le château à l'époque c'est là où il était officier de cavalerie. Carlo de Rose, c'est là où il a reçu l'ordre d'aller enfoncer la porte de la petite église d'Haussonville, qui était un petit village voisin. Et la libraire, Emmanuel Quentin, m'a dit, en fait, il fréquentait sans doute cette librairie, parce que cette librairie date de son époque. Et donc, il devait pas y en avoir 36 à l'époque, elle était tout près du château. Donc là, parfois, et même j'étais à Verdun le week-end d'avant pour le Cavalier du Ciel, donc, je le revisite une fois encore. J'aime les lieux, comme vous savez, j'ai fait beaucoup de documentaires sur des maisons qui ont appartenu à des grands artistes, femmes et hommes. Et les lieux m'aident beaucoup à écrire et à imaginer, parce que je trouve que c'est des, comment dire, on peut vraiment s'appuyer sur un lieu pour essayer de raconter une émotion, la façon dont on le voit aujourd'hui et la façon dont on imagine qu'il était et qu'on le voyait à l'époque.
Pourquoi avez-vous écrit un roman et non pas réalisé un documentaire sur votre arrière-grand-père, Carlo de Rose ?
Bonne question. Alors naturellement, après avoir fait mon premier roman, bah, j'ai aimé écrire. Et donc j'ai naturellement été vers le roman, d'abord parce qu'il y avait ces lettres qui étaient tellement fortes et que je voulais que chaque lectrice, chaque lecteur puisse les lire comme s'il ou elle les recevait. Et puis je trouve, alors moi, dans mon métier, peut-être un peu comme le vôtre, Didier, je trouve que chaque histoire qu'on découvre nous fait poser la question de quel est le bon média pour l'utiliser. Et l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que peut-être que ça deviendra un documentaire, qui sait, j'en serais très heureux. Mais en tout cas, je me suis dit, j'ai envie d'aller vers un roman pour raconter ça, parce que je pourrais exactement le travailler. Bah, c'est l'avantage et l'inconvénient du roman par rapport au film documentaire, c'est qu'on est seul, enfin jusqu'au moment où on a un éditeur, et donc on creuse.
Justement, vous évoquiez votre éditeur, comment finit-on chez Julliard, Jean Rousselot ?
Eh bien écoutez, j'en suis très heureux d'abord, c'est la rencontre avec Adrien Bosque, qui dirige Julliard depuis quelques mois, et j'ai eu la chance de le rencontrer parce que après le succès de mon premier roman, je cherchais quelqu'un avec qui faire la suite, et j'ai eu la chance à un moment où j'ai reçu un prix d'avoir quelqu'un qui a lu le manuscrit, qui ne trouvait pas preneur à l'époque, et donc j'étais un petit peu démuni et je croyais beaucoup au Cavalier du Ciel, et donc cette personne m'a parlé d'Adrien Bosque, et il s'avère qu'Adrien Bosque avait écrit un premier livre qui s'appelait Constellation, sur le fameux avion dans lequel Marcel Cerdan allait rejoindre Édith Piaf et qui s'est écrasé, donc il avait cette sensibilité aux avions, et en fait il m'a proposé de l'éditer chez Julliard, qui pour moi était une très chouette façon de faire une aventure ensemble, et puis j'aime beaucoup même l'objet même, je trouve qu'il y a un dessin qui a été fait par Simon Roussin qui montre un aviateur, on sent qu'on part pour l'aventure, il y a un petit côté Le Petit Prince de Saint-Exupéry qui est à mon avis assez proche du personnage, et donc je trouve que, alors je vais pas parler du fond parce que le fond c'est, je l'ai écrit et je laisserai à chacun juge d'aimer ou pas aimer, mais en tout cas je trouve l'objet me plaît beaucoup. Le livre.
Et justement, vous avez dit par le passé que Carlo de Rose, votre arrière-grand-père, donc héros de ce roman, Cavalier du Ciel aux éditions Julliard, avait un côté petit prince. Expliquez-nous.
Oui, je trouve que ce que j'aime, c'est que je trouve qu'il y a un absolu, il y a une façon de... Effectivement, il s'intéresse aux avions, il s'intéresse, il va dans les questions techniques, mais je le vois comme porteur d'un grand idéal. Cette idée de désobéir, de pas se poser la question, bah non, c'est pas possible, ça je fais pas. Me fait beaucoup penser au Petit Prince de Saint-Exupéry, dont on se demande si c'est justement une émanation de Saint-Exupéry lui-même. Et alors on est bien avant, évidemment, on est bien avant Saint-Exupéry, on est même avant Kessel, parce que Kessel était à Jonchery-sur-Vesle un an après, ce qu'il raconte dans l'équipage, un an après le commandant de Rose, Carlo de Rose. Et donc je trouvais qu'il y avait quelque chose, il y avait un idéal, et en même temps, je trouvais que dans ses lettres notamment, il ne doutait jamais de ses décisions. Un moment plus tard, c'est pareil, on lui demande de faire du bombardement, il dit « je crois pas au bombardement ». Non, c'est pas efficace, ça sert à rien. Puis voilà. Et je trouve que, oui, moi, ça me rappelle un peu la façon dont s'exprime le Petit Prince. Et c'est aussi parce que je trouve qu'il y a une dimension poétique, aussi dans, bah, évidemment, dans le Petit Prince, mais que je voyais aussi dans le parcours de Carlo de Rose, qui m'a mené vers ça. Je sais pas si ça répond à votre question.
Moi, Carlo de Rose m'a fait penser à Porco Rosso. Le Porco Rosso de Miyazaki, c'est-à-dire un homme qui, pour ses valeurs, préfère être un porc qu'un fasciste. et votre arrière-grand-père n'a pas voulu enfoncer la porte d'une église et il s'est envolé.
Ah oui, moi j'adore Miyazaki. C'est drôle parce que Porco Rosso, je regardais la couverture du DVD il y a 3 jours en me disant « il faut que je le revoie ». Et j'aime énormément cette histoire et je pense qu'effectivement, en refusant quelque chose qui est au-delà de ses... Et je pense que ça peut... ne pouvant pas faire quelque chose par conscience, ne pouvant pas faire quelque chose, il y a vraiment, oui, comme vous dites, il y a un point commun.
Comment votre famille a accueilli ce projet, l'idée de ce roman sur votre aïeul?
Alors, au départ, j'avais il y en avait qui avaient un tout petit peu peur. C'est-à-dire qu'ils étaient... surtout que je le fasse parler à la première personne. Parce qu'évidemment, on a tous, on n'a pas tous, mais dans certaines familles, parfois, on a quelqu'un qui a compté et sur lequel, on va dire, tout le monde est d'accord. Pour dire à lui ou elle, c'était vraiment quelqu'un de super. Et l'idée de le faire parler à la première personne, il y avait une peur que je le trahisse. Et moi, évidemment, c'était pas du tout mon but. Et puis, c'est pas, enfin, il y a des gens qui racontent des histoires sur leur famille pour raconter telle chose problématique qui a été faite. Là, c'était pas le cas, c'était pas un roman à charge. Mais l'idée que j'en fasse un roman à la première personne a un petit peu fait peur, même si, après, très généreusement, ils m'ont donné tous les documents dont j'avais besoin. Et à la fin, quelques mois avant que le livre sorte, j'ai été le voir, notamment mon oncle, qui était le doyen de mes oncles, pour lui apporter le manuscrit, pour lui dire, regarde, voilà. Et puis il l'a lu. Il a beaucoup, beaucoup aimé. Il était très, très ému. Il a trouvé que j'avais pas trahi. Puis après, même, il m'a même mis en relation, c'était super, avec un pilote, parce que moi je suis pas pilote, mais effectivement ça se passe beaucoup dans les airs, et il m'a dit, ah telle page, peut-être prends l'avis d'un pilote, il m'a présenté un pilote super, qui a été vraiment génial, qui a tout relu, qui m'a permis effectivement de encore visser des petites choses pour que le commandant de Rose soit le plus beau possible, j'avais essayé de le faire le plus beau possible, mais aussi qui par rapport à la fois à l'histoire, par rapport au pilotage, que tous les pilotes aussi qui éventuellement le lisent se reconnaissent en lui.
Est-ce que vous vous sentez proche de Carlo de Rose?
Oui.
Puisque vous en parlez en le nommant toujours commandant de Rose.
Oui, c'est
une certaine distance entre vous et votre arrière-grand-père.
C'est vrai. C'est drôle. Moi je me sens proche de lui. Enfin, c'est-à-dire que j'ai une admiration folle pour son courage. J'ai aucune idée si j'avais le même. On montait quand même dans des avions. Il n'y avait pas de parachute. C'était du bois, de la toile. Les taux de mortalité étaient incroyablement élevés. Mais je pense que quand je me suis emparé de cette histoire, je lui ai vu, j'ai pu dans les trous, enfin dans ce qu'on ne sait pas de son histoire, j'ai voulu faire des choses qui soient proches de ma façon de voir les choses avec ses faits. Donc effectivement, parfois j'appelle le commandant de Rose, parfois Carlo. C'est vrai que je reste assez impressionné par lui, par sa marque, ne sachant pas si j'aurai le courage. Mais en termes de sentiments, en termes d'idéal, il y a quelque chose qui me parle profondément, qui a fait que j'ai passé toutes ces années à travailler ce court roman.
On a beaucoup, beaucoup évoqué Carlo. Parlez-nous maintenant de Madeleine de Rose.
Madeleine de Rose, c'est donc mon arrière-grand-mère. Nous, on l'appelait Mimi. Ses petits-enfants, ses enfants. Et elle était incroyablement courageuse, elle aussi. Et j'ai voulu, j'ai voulu la faire exister dans le roman, mais pas de façon... Moi, j'aime bien les histoires avec des femmes, mais là, c'était effectivement beaucoup une histoire d'hommes au départ. Mais je voulais qu'elle existe, donc j'ai voulu... Les gens la trouveront, et beaucoup de femmes qui ont lu, qui étaient très émues, m'ont rapporté la beauté de leur relation. Je trouve que c'est... En fait, à un moment, je le fais dire d'ailleurs par Carlo. Carlo se dit que, voilà, il préfère encore le courage de décoller sans savoir s'il va revenir que le courage de la femme qui sait que son mari est décollé, qui ne sait pas si elle va revenir, qui est, en fait, d'une certaine façon, qui doit attendre. Et je pense que dans leur relation... Alors, elle, je l'ai connue parce qu'elle a vécu jusqu'à 94 ans. Elle a été veuve à 27 ans avec 4 enfants. Et je trouve qu'elle écrit merveilleusement bien. Ben, comme vous l'avez vu dans le livre, il y a quelques-unes de ses lettres. Mmh. Et je trouvais qu'elle avait à la fois une force de caractère comme... Et puis, elle dit aussi des choses très belles sur les femmes qui se sont retrouvées veuves de guerre. Elle dit « Nous sommes les grandes blessées de guerre ». Je trouvais que cette formule était très forte. Et je pense que, effectivement, et dans le livre, on raconte le moment aussi où voilà, sans vouloir déflorer l'histoire, mais elle va devoir faire face à des moments très, très, très difficiles, mais avec une hauteur de vue, une aisance qui m'ont toujours fasciné et que j'ai, effectivement, on développe, c'est une grande dame blonde, très élégante. Moi, je l'ai connue à plus de 90 ans. Elle était peut-être un peu moins grande, mais elle avait toujours cet œil bleu, très, qui vous regardait avec beaucoup d'amour. Et je trouve son courage d'avoir accepté de partager la vie de quelqu'un qui avait ce genre de vie extraordinaire.
Et ces femmes qui voyaient leurs hommes s'envoler sans jamais, en se disant qu'ils ne reviendraient peut-être pas, nous font évidemment penser aux femmes qui voyaient leur mari marin partir en mer, ces femmes portugaises.
Oui.
Et de là est né le sentiment de la saudade aussi, c'est-à-dire les femmes qui souhaitaient le meilleur à leur mari et surtout de revenir, mais ne sachant pas si la mer allait leur rendre leur mari.
Exactement, ça fait penser à Barco Negro, notamment la chanson d'Amalia Rodriguez. Et oui, il y a ce sentiment d'accepter l'impuissance et de souhaiter que l'autre, je crois que c'est ce qu'on peut souhaiter d'ailleurs le plus beau dans un couple, c'est-à-dire que l'autre vole de ses propres ailes, que l'autre s'envole au sens figuré, au sens propre, comme on veut, et d'espérer qu'il revienne et de vouloir l'accompagner malgré les dangers et les risques de se retrouver seul.
C'est un grand roman sur le destin.
Oui. Ah oui, vraiment.
Sur la destinée.
Oui.
Celle de Carlo de Rose.
Oui.
Celle qu'on provoque en s'envolant dans un avion en bois et en toile.
Oui.
C'est un roman sur le destin, finalement, Cavalier du Ciel.
Exactement.
Est-ce que vous avez, Jean Rousselot, des dédicaces prochainement prévues, des sorties?
Alors,
quelle est l'actualité autour de ce roman?
Je serai en Bourgogne demain au théâtre des Copiaux. C'est la librairie Rendez-vous avec la nature de Chani qui organise cette rencontre dédicace. J'en suis très heureux que cette librairie ait beaucoup aimé mes deux romans. Après, il y a des choses organisées, mais c'est pas encore complètement clair. Mais voilà, si des libraires m'invitent autant que se peut, je me rendrai toujours disponible parce que j'aime beaucoup, comme on le fait Didier, là, tous les deux ici. J'aime énormément raconter ce destin, lire éventuellement des extraits, rencontrer des gens et témoigner sur cette histoire qui, je crois, peut, comme vous dites, c'est la saoudade, c'est le destin, il y a une dimension dure, mais il y a aussi, je trouve, ce destin donne aussi beaucoup d'espoir sur ce que peut arriver quand on va au bout de ce en quoi on croit.
Et ce roman sur celui dont la grande ombre plane toujours s'appelle Cavalier du Ciel. C'est aux éditions Julliard et c'est signé Jean Rousselot. Merci beaucoup, Jean, d'être revenu dans l'Alpha 10-13. Moi qui avais déjà eu le plaisir de m'entretenir avec vous en juillet 2023 à propos de votre documentaire Amalia Rodriguez, Ma Maison Portugaise, diffusé à l'époque sur France 5. Vous êtes revenu aujourd'hui pour nous parler donc de Cavalier du Ciel aux éditions Julliard.
Merci Didier.
Et on va se quitter sur un titre de Julien Clerc. Il s'appelle Où s'en vont les avions?
Où s'en vont les avions quand ils s'en vont? Parfois je crois qu'ils vont chez moi. Où s'en vont les avions quand ils s'en vont? Et les amours quand elles reviennent. le vent quand tu t'en vas? Où va la pluie quand tu t'ennuies? Où s'en vont nos mains dans la nuit? Qu'ils vont chez moi. Où s'en vont les avions quand ils s'en vont? Et les amours quand elles reviennent? Où va l'océan Pacifique? Où s'en va mon cœur si tu pleures? Où vont tous ces gens dans Paris? S'en vont sur l'eau, où vont tes rires? Où vont tes yeux perdus de bleu? Où va l'oiseau du paradis? Sans une ombre, sans un souci. Où va la vie si tu me quittes? Où va ton reflet dans la vitre qui me donne du pays? Où s'en vont les avions quand ils s'en vont? Parfois je crois qu'ils vont chez moi. Où s'en vont avions quand ils s'en vont, et les amours quand elles reviennent.